Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
L'accès aux services de santé de qualité reste un défi à relever au Mali. La situation préoccupe une bonne partie de la population et les acteurs dans l'ordre des médecins du Mali. Et pour réfléchir sur ce sujet, nous avons trois invités sur ce plateau, tous de l'ordre des médecins. Docteur Al-Kadri Diarra, chargé de communication. Docteur Mariam Tchebas Traoré Keïta, pardon, secrétaire général adjoint de l'ordre des médecins. Et docteur Seydou Tidiane Traoré, adjoint au chargé de communication de l'ordre des médecins. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Honneur aux dames, pour commencer ce Grand Dialogue, nous allons commencer avec vous, Dr Mariam Tchebas Traoré Keïta. Aujourd'hui, quel est votre constat de la situation sanitaire du pays?
Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse que vous ayez commencé le débat par moi, par rapport à la situation sanitaire actuelle du pays. Je dirais que si on essaie d'aller depuis 90 où il y a eu les réformes en santé au Mali, au jour d'aujourd'hui, il y a eu un grand pas en avant. Il y a eu un grand pas en avant, certes, il y a beaucoup de défis à relever. Donc,
D'accord. Monsieur le chargé de communication, Dr Al-Kadri, quelque chose à ajouter par rapport à la situation sanitaire du pays?
Merci bien à Studio Tamani pour cette invitation adressée au nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord préciser comment nous sommes arrivés ici. Nous avons été élus par l'ensemble des médecins du Mali lors d'une élection qui s'est passée le 7 avril. Donc cette élection a permis de mettre en place un bureau de 16 conseillers nationaux, dont le président Adama Berthier, qui devrait être là, a été empêché par les derniers moments. Et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à cette invitation qui est venue grâce à l'intermédiaire d'un conseiller national, le docteur Alou Makalou, qui aujourd'hui se trouve à Ségou. Nous nous faisons un clin d'œil. Et l'opportunité que Studio Tamani nous offre à travers plus de 70 radios synchronisées et 2 télévisions nous a semblé utile. On n'est pas raté. C'est une occasion très importante qu'il ne faut pas rater. Malgré que le nouveau bureau que nous sommes, nous n'avons pas encore pris service. Ce n'est pas parce qu'on est pressé de prendre service qu'on se hâte. Non, c'est une opportunité extraordinaire qui ne s'offre pas à chaque moment.
La situation
sanitaire est compliquée, il faut en parler. Véritablement, nous vous remercions beaucoup pour cette invitation. Et pour dire par rapport à la question, la situation sanitaire du pays, je crois que c'est une évidence que la situation sanitaire du pays, certes, s'améliore, mais il y a véritablement beaucoup de difficultés. Les difficultés sont énormes et on ne peut pas finir d'en citer. Je crois que à travers la suite du débat, nous allons rentrer dedans pour pouvoir fixer certains aspects.
D'accord. Docteur Seydou Tidiane Traoré, vous, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces difficultés?
Ok. Bonsoir à tout le monde. Comme il a dit, la santé au Mali, particulièrement dans le monde, c'est pas assez luisant. Dans deux difficultés, nous avons surtout des déserts médicaux, le manque de spécialistes, surtout dans certaines zones. Vous voyez, tout récemment, il y a à peine 2 ans, nous n'avons même pas un médecin de maladie de la peau dans toute la région de Mopti. Ça, c'est un grand défi à relever.
Tout à fait.
Il y a certaines spécialités, quand malheureusement vous avez ce genre de pathologies, de certaines maladies, il vous faut vraiment venir à Bamako. Et pour juste illustrer, comme vous l'avez dit, l'état de santé au Mali, imaginez une maman qui se trouve à Mopti. Donc l'enfant a des problèmes de peau. Il faut que la maman vienne à Bamako. C'est la maman qui vient à Bamako, c'est le papa qui va débourser. Le problème n'est pas fini. Quand vous venez à Bamako, il faut trouver un logeur. Et encore aller au centre de santé, prendre un rendez-vous. Donc c'est une perte de temps pour le papa qui donne l'argent, c'est une perte de temps pour la maman. Et l'enfant qui est là aussi, par le trajet, ça fait au moins 600 km Avec le connaissance que vous savez maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile.
Et ça veut dire que le coût de la santé au Mali est élevé?
Le coût de la santé, oui. Voici pourquoi nous invitons les gens à aller vers le mutuel. Pour adoucir, pour amortir ces coûts-là. Non, le coût de la santé, il y a toujours un coût. L'État subventionne, les ONG font de leur mieux, mais si les populations, les habitants pouvaient se mettre ensemble à aller vers la mutualité, le tiers payant, le coût est déjà pris et ça va amoindrir. Partager l'ardoise à tous les échelons, c'est la formule sacrée qu'il faut appliquer pour amortir le coût de la santé.
D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que les mutuelles pourront changer quelque chose dans la situation?
Oui, je suis véritablement en phase avec cela et c'est pourquoi il faut qu'on encourage les uns et les autres à aller vers ces mutuelles-là. Je crois qu'il y a un constat clair qui se dégage, c'est que depuis l'avènement de l'assurance maladie obligatoire, qui est l'AMO, qui est, on va dire, l'assurance générale qui prend en charge la plupart de nos compatriotes, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le scanner, la prescription du scanner est devenue banale. C'est vraiment... Et c'est parce que aujourd'hui les gens sont assurés à travers cette assurance-là. Donc vraiment, ça nous a permis de faire des avancées significatives. Mais je crois qu'il y a encore des efforts à fournir. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès à cette assurance-là et d'autres aussi. Et je crois que nous avons ce défi-là de faire en sorte que les privés soient aussi assurés. Nous avons ce rôle au niveau de l'ordre de faire en sorte que les gens puissent avoir rapidement les licences d'exploitation dans leur clinique, de pouvoir être dans les assurances. Et que l'assurance ne soit pas considérée comme un privilège au niveau de certains établissements privés. Non. Tout le monde doit être assuré. Et l'assurance doit pouvoir marcher dans tous les établissements privés ou publics. En ce moment-là, c'est le malade qui va choisir là où il veut aller.
Mais certains consommateurs dénoncent le fait que, selon eux, presque la plupart des médicaments qui sont très importants à acheter ne sont pas couverts par l'assurance maladie obligatoire.
Bon, je crois que, ma connaissance, il y a une très grande évolution face à ça. Maintenant, l'assurance maladie obligatoire prend l'essentiel de tous les médicaments, y compris dans les officines. Donc, véritablement, je crois que ce problème, bon, c'est un peu ancien. Je crois qu'on n'est plus à ce niveau. Hein.
D'accord. Docteur Mariam, est-ce que ce n'est pas ce coût élevé qui pousse certains consommateurs à aller vers les médicaments de la rue plutôt qu'à partir dans les pharmacies, dans les hôpitaux?
Ok. Par rapport d'abord au coût de la maladie, je dirais qu'au Mali, on pourrait dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, malgré les efforts fournis par l'État, les partenaires, et techniques et financières et les ONG, donc le coût de la maladie reste élevé au niveau de la population, donc des ménages. Parce que quand on prend les dépenses générales de l'État, tout ce qui est dépenses de santé par an, on va trouver que plus de 50% de ces dépenses sont supportées par les ménages. Et ces dépenses-là sont payées et sont supportées par les ménages par paiement direct à 98%. Donc cela veut dire que malgré les assurances, les mutuelles, la couverture n'est pas toujours assurée. Parce que quand on prend l'AMO, c'est les fonctionnaires. Et quand on prend le remède, c'est les indigents. Les indigents, actuellement, avec la protection sociale, ils arrivent quand même à identifier, et le système est un peu allégé à ce niveau par rapport à l'identification des indigents, ce qui fait que beaucoup d'indigents sont aujourd'hui pris en charge sans problème. Mais la couche qui est prise en charge par ces deux entités de l'État sont minimes. Pour la majeure partie de la population qui ne sont pas dans la fonction publique, sont sollicités à aller vers les mutuelles. Et l'INPS fait des faveurs aujourd'hui envers cette population qui peuvent aller s'inscrire à l'INPS moyennant une déclaration de recettes mensuelles. Donc ils peuvent aussi adhérer à l'AMO. Mais apparemment, au vu des études, des faits, la population n'arrive pas toujours à consentir.
D'accord. Voilà. Docteur Seydou Tidiane Traoré, vous avez parlé de cette déficience en nombre de médecins dans certaines zones et ce manque de spécialisation de certains médecins. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette situation et ce qu'il explique?
Oui, c'est ce que nous apprenons le plus souvent, le problème des déserts médicaux. Quand vous prenez par exemple Bamako, Il y a toutes les spécialités dans une structure de santé. Prenez le Gabriel Touré, le point G. Nous avons parfois toutes ces spécialités qui sont là. Et même si elles ne sont pas là, elles sont à moins de 10 km. Vous voyez la distance entre le point G et Gabriel Touré. Répartons maintenant à Mopti, je vais prendre l'exemple. Je prends le centre, je n'ose pas m'aventurer dans la grande région du Nord, où l'accès parfois même à 15 km, vous n'avez pas, l'accessibilité est difficile. Ne confondons pas cela, il y a la disponibilité et il y a l'accessibilité. Quand nous prenons cela, je vais vous donner le cas avec, Dieu merci, le professeur Fay. J'ai personnellement participé à l'étude, à la mise en place des dermatologues. Je répète encore, je n'avais pas dit la ville de Mopti. Toute la région de Mopti, il n'y a pas un dermatologue. Il n'y en a pas. Cela pose non seulement des problèmes de formation, mais après cette formation, le jeune médecin qui sort a des problèmes pour aller s'installer à l'intérieur. Il y a cette crainte qui est là pour dire que non, la capitale, c'est le centre qui décide. Il y a ce problème qui est là. L'idéal, ce serait au niveau de chaque CREF, centre de santé de référence, d'avoir une spécialité. Vous prenez juste la dent. Quelqu'un qui a des problèmes de dentition, le plus souvent, s'il part dans la capitale régionale à Mopti, ça peut passer. Mais à l'intérieur, dans leur cercle, dans leur commune, ça pose énormément de problèmes. Parfois, la ressource humaine est là. Hein. Je l'ai toujours dit, quand nous étions jeunes, nous sortons, nous avons peur d'aller à l'intérieur. Dieu merci, aujourd'hui, ça ne s'est résorbé tout seul. Et il faut que nous pensions justement à cette population. La population, ce n'est pas le plus souvent ceux qui ont un embonpoint, ceux qui sont à un certain niveau élevé. Mais attention, moi je viens du village. Il faut que nous pensions à nos parents qui sont au village. Et justement, j'ai rebondi sur la question que vous avez posée par rapport au coût des médicaments. Est-ce que ce n'est pas le coût des médicaments qui fait que nous partons vers les médicaments de la rue? Ah oui, il y a ça. Mais il y a aussi le coût de la prise en charge de la consultation. Une consultation spécialisée à Bamako, la pédiatrie jeunesse, ça fait 6 000 francs, AMO, 5 000 francs. Je vais aller, mon enfant qui a mal au ventre, la douleur, je vais payer 5 000 francs pour que le médecin puisse le regarder, pour me prescrire un médicament que je dois aller chercher. Une première fois, je le fais. Ça fait 5 000 francs. Je paye le médicament, 2 000 francs, ça me fait 7 000 francs. Quand je vais dans la rue, directement, j'ai la dame qui est là, je lui procure. Je sais, les risques sont là. Il y a des décès brutaux. Mais quand je viens, la dame me dit, oui, Bana Saba, Bana Olin, elle me vend ça à 200 francs, à 300 francs. Reconnaissez que la prochaine fois, je vais réfléchir deux fois avant de partir. C'est pour cela que nous devons sensibiliser cette population, pour leur dire, oui, ça c'est facile, c'est, vous pouvez le faire, mais attention, lorsqu'il y a des problèmes, la fin c'est quoi? Encore les hôpitaux. Pourquoi ne pas aller vers cette science qui est merveilleuse, qui peut vous donner facilement des attributs? Voici pourquoi j'insiste encore, pour que cette maman-là, dites-lui, dites à son mari de souscrire à une mutualité. Le gâteau, il est partagé et c'est très facile de prendre ça en charge. Même les spécialités. D'accord. Comme le docteur Akadir l'a dit, aujourd'hui, toutes les spécialités, presque 90%, sont dans l'AMO. Pas seulement l'AMO, hein. Il y a d'autres mutualités qui sont là. Mais comme bon, tout le monde connaît maintenant l'AMO en assurance, c'est pour ça qu'on s'apaisante un peu sur l'AMO. D'accord. Il y a d'autres assurances qui sont là.
Vous avez soulevé la question de la sensibilisation de la population pour qu'elle puisse partir à l'hôpital. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas demander à l'État ou trouver des stratégies pour que le coût puisse être réduit? Comme vous le disiez tout de suite, 5 000, 6 000, c'est cher pour certains habitants des villages surtout, même pas à Bamako.
C'est pour cela, au niveau des CESCOM, le coût de consultation, le plus souvent, c'est moins de 500 francs. L'État subventionne. Cette subvention est peut-être minime, insuffisante, mais l'État a toujours joué sa partition à subventionner. Un, vous prenez un CESCOM à l'intérieur, l'État subventionne. Deux, les ONG sont là, subventionnent le plus souvent, c'est la gratuité ciblée. Mais même là encore, c'est encore cher pour nos parents, qui parfois avoir 500 francs. Faites l'expérience, allez au village en profondeur et lorsque vous voyez un papa, une maman, donnez-lui 500 francs. Vous allez voir la bénédiction qu'elle va faire pour vous. Ce n'est pas facile d'avoir ces sous-là. Mais si les femmes se mettent ensemble pour une coopérative, on finance la coopérative, le coût de santé va chuter. La mutualité, on y va. Comme vous le voyez, chacun paie 1000 francs. Les gens disent avant que c'était creusé un puits. Ce n'est plus le puits maintenant, puisque parfois le puits va à sec. Mais quand vous mettez un forage, à n'importe quel moment vous avez l'eau. Aujourd'hui, je paie mes 1000 francs par mois, je suis sain. Demain, si l'enfant tombe malade, la prise en charge est là.
D'accord. Docteur Al-Kadri, comment l'État peut-il accepter que des médecins formés, recrutés, puissent refuser de partir dans les villages, disant que tout est concentré à Bamako? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle qui manque?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Mais pour faire la précision, c'est que quand l'État recrute, l'ordre n'a pas son avis donnée par rapport au nombre, alors que normalement, l'article 4 de la loi aujourd'hui qui parle de la création de l'ordre et de son fonctionnement, dit clairement que l'ordre a un avis consultatif, mais obligatoire, par rapport à chaque question qui concerne la bonne pratique de la profession médicale, que ce soit dans le secteur privé ou public. C'est l'article 4. Mais je crois que nous sommes insuffisamment consultés à ce niveau. Mais en ce qui concerne l'ordre, je crois que nous avons un moyen de faire en sorte que les zones reculées puissent être bien servies en termes de médecins, et c'est de faciliter la licence d'exploitation. Qu'on facilite l'installation de ces médecins privés-là dans les structures reculées. Moi, je donne l'exemple, par exemple, d'un médecin qui se trouve jusqu'à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, jusqu'à Kadiana, qui aujourd'hui fait la fierté de cette zone. Il fait du travail extraordinaire et vraiment, ça marche très bien. La population, c'est aussi cela. L'initiative privée, il faut qu'on l'encourage. Et pour cela, facilitons-leur l'accès à la réglementation, d'être en règle. Et en ce moment-là, ça permet aussi de faciliter l'accès à l'assurance maladie qui, une fois de plus, est une assurance qui est ouverte non seulement aux fonctionnaires, mais il y a aussi les privés qui peuvent être assurés par l'assurance maladie obligatoire.
Mais certains donc, disent qu'ils ne veulent pas le secteur privé parce que le secteur privé est trop cher pour eux. Quand on fait une comparaison souvent entre les hôpitaux publics et les cliniques privées, on voit que le coût est plus élevé dans les cliniques, même si certains pensent également que la bonne qualité se trouve dans ces
justement,
cliniques.
Justement, c'est ça la question. Bon, parce qu'on est en train de faire clair, hein. On ne peut pas, le Malien lambda ne peut pas payer sa santé. Donc, il faut faire intervenir un tiers intervenant. C'est ça l'assurance. Donc, quand on va essayer de démocratiser l'assurance, faire venir l'assurance, y compris dans les structures privées. Donc, par exemple, si on prend l'exemple à la clinique, enfin, une des grandes cliniques de Bamako, que cette clinique soit dans l'assurance maladie obligatoire, par exemple. Mais si toi tu devrais faire un choix, excusez-moi de vous tutoyer, vous devez faire un choix entre un hôpital comme le Pongé et cette structure privée, alors que votre assurance marche dans les deux établissements, à ce moment-là vous aurez le choix libre d'aller là où vous voulez. Donc c'est ce que nous on veut. On ne veut pas que l'assurance soit limitée seulement aux établissements publics, non. Que l'assurance marche partout. Qu'il y a des critères bien sûr bien déterminés qui font que cet établissement... Et maintenant, facilitons les choses. Au niveau de l'ordre, nous avons le rôle de faire en sorte que les gens aient leur licence d'exploitation le plus vite que possible. Si ça s'est fait, le reste de la procédure va suivre. Et nous encourageons aussi les collègues à s'associer. C'est-à-dire que faire des cliniques, des petites structures qui difficilement vont évoluer, nous encourageons les médecins à s'associer, à faire de grandes cliniques, de grandes polycliniques, pour que nous puissions aussi quitter cette situation de vraiment, excusez-moi du terme, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup avec ces petites cliniques qui prolifèrent chaque fois, des cabinets qui s'ouvrent par-ci, par-là. Donc, allons-y ensemble, formons des poules. Et développons-nous, je crois que l'ordre qui est là aujourd'hui va tout mettre en œuvre pour pouvoir accompagner. Ne comptons pas seulement sur l'État.
D'accord.
L'État va déployer ces gens, ils vont recruter des gens, ils ne vont pas nous demander, ils vont muter des gens, ils ne vont pas partir. Bon, l'ordre n'a qu'un avis consultatif sur la question. Mais on ne peut pas s'impliquer à certains niveaux.
D'accord. Voilà. Aujourd'hui, certains dénoncent également une question qu'ils appellent la malformation des médecins. Est-ce que vous avez fait ce constat lors des médecins?
Bon, je crois que quand on dit malformation des médecins, c'est un terme, à mon avis, qui me gêne personnellement. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de médecin mal formé. Parce que la formation, c'est basé sur un certain nombre de programmes clairs, établis. Maintenant, l'être humain est ce qu'il est. Et dans la pratique, il peut y avoir des difficultés, des gens qui ont de la peine à payer leurs frais de condiment à la maison, ils se trouvent dans des situations où ils peuvent avoir un peu d'argent. Donc ça, c'est des pratiques, on va dire, assez malsaines qui peuvent se passer. Mais ça ne veut pas dire que le gars, il est mal formé. Je pense que ce terme mal formé me gêne honnêtement. Je crois qu'il y a effectivement, il y a des médecins qui ne travaillent pas la profession comme ça se doit. Ça, c'est une réalité. Et je crois qu'il y a des réglementations claires qui condamnent ces choses-là, notamment l'ordre a des dispositions qui permettent de cadrer ces choses-là et nous allons les appliquer. C'est très clair, il n'y a pas de camaraderie ou quoi que ce soit. Les médecins qui se permettent de violer les dispositions, nous allons nous assumer.
D'accord. Voilà. Docteur Mariam Tiaba Traoré Keïta, est-ce que vous également vous partagez l'avis de Docteur Diarra quand il dit qu'il n'y a pas de médecin mal formé?
Oui, je partage bien sûr son avis parce que, comme il l'a dit, la formation médicale est calée sur un programme bien établi qui est universel et à tous les niveaux. Mais bon, comme il l'a dit, l'être humain aussi a son moi. Et il y a d'abord la pédagogie, l'éducation à la base qui reflète aussi le comportement du médecin dans son travail. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je ne dirais pas les médecins de certaines structures, même de l'État, sinon tous ceux qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Certains, comme il a dit, certains n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec les salaires. Donc, ce qui les pousse à certaines pratiques. Et ces pratiques-là peuvent être des pratiques qui sont vraiment pas dignes d'un médecin. Et ce qui fait que, comme il a dit, l'ordre va vraiment
régulariser
ces situations. Sinon, la formation des médecins est universelle.
Mais est-ce que les écoles de santé, par exemple, qui s'ouvrent au Mali, n'importe comment, n'importe où, est-ce que ces écoles, nous sommes sûrs qu'elles forment réellement bien les infirmiers, en fait, les hommes qui sont censés, guérir les malades?
Oui, ces écoles-là forment bien les infirmiers. Mais parce que leur formation est... L'examen de sortie de l'information est fait à l'institut. C'est l'institut qui valide tous les diplômes à ce niveau.
D'accord.
Donc, tous les élèves qui sortent de ces écoles de formation, on ne peut pas dire que c'est des gens mal formés. De nouveau, c'est la structure agréée de l'État qui fait l'examen avec ses élèves. Et c'est la structure agréée de l'État qui leur donne le diplôme. Et s'il y a ils sont envoyés dans les zones rurales, pour faire des stages ruraux, tout comme les élèves de l'Institut. Donc, vraiment, on ne pourrait pas mettre en doute la formation de ces différentes écoles.
D'accord. Docteur Seydou Tidiane Traoré, est-ce votre avis aussi?
Oh, là, l'avis, là, c'est personnel. Le médecin, depuis la formation, quand nous sommes à la faculté, effectivement, les premières années, deuxième année, troisième année, vous partez dans un centre de santé, oui, vous avez accès à un patient. Pour faire les soins infirmiers, contrairement à certains pays, je sais de quoi je parle, parce que c'est le produit au moins de deux générations de deux pays. Mais là où le problème se pose, au Mali, oui, vous avez accès au médecin, forcément le patient, mais nous sortons tous avec le même niveau. Je suis la même promotion que Mariam Tiaba. Nous sortons tous avec le même niveau. Là, maintenant, c'est à chacun, c'est ça, j'appelle ça, c'est la formation initiale. Le problème se pose au niveau de la formation continue, M. Touré. À la formation continue, là, c'est un problème. Chacun a ses ambitions. Qu'est-ce que je veux devenir? C'est qu'Alcard n'a pas dit qu'il est universitaire. Moi, je ne suis pas universitaire. Il va dans ce domaine. Madame Tiaba, est-ce qu'elle contrôle la clinique? Ça va dépendre de la motivation de tout un chacun. Ça va dépendre aussi du cadre social. Ça nous de rassurer parfois la famille pour dire que non, ce n'est pas parce que lui-là, il a une grosse cylindre qu'il faut que forcément que je l'ai. Les outils sont là pour cette formation. C'est à nous maintenant, en tant que cette formation hors des médecins, les conseillers, c'est à nous d'appuyer ces gens-là, de les motiver à aller vers ces formations. Les outils sont là, les espaces sont là. Monsieur Touré, je vous apprends aujourd'hui, chaque fois, il y a des sociétés savantes, que ce soit la cardiologie, qui organisent ce que nous appelons les enseignements post-universitaires. Les médecins doivent aller vers ces endroits-là. Nous avons des congrès. Les médecins doivent aller vers ces endroits-là. Est-ce que ça ne se fait? Ça se fait? Non, peut-être à 10%. Faites une session sur le palu. Invitez-les, chacun pour son petit derrière, pour dire que je veux un peu de sous. Ces médecins doivent prendre conscience pour dire que non, j'ai une responsabilité. Juste que j'ai un patient, moi, l'État m'a fait la formation initiale. Je suis sorti, aujourd'hui, je suis médecin. J'ai l'obligation d'aller vers le savoir pour prendre en charge ma population, parce que demain, je peux avoir affaire à mon ami, je peux avoir affaire. Mais ces formations qui sont là, il y a les EPI, comme je l'ai dit, il y a le congrès qui sont là, et nous sommes partis jusqu'à vouloir décentraliser ces formations. Il y a certains structures savantes qui ne font pas ces formations, ces EPI à Bamako, ils parlent les faits dans les régions. Et nous maintenant, là je rejoins maintenant cette fois-ci la position de l'ordre, nous avons des centres qui font les formations à distance gratuitement. Je pense aux CERTES qui font des formations. Chaque jeudi, vous avez le téléenseignement. C'est-à-dire, on prend un terme comme le PALU. Un spécialiste vient, il fait son exposé là-dessus. Et les médecins doivent répondre. Et là, c'est malheureux. Sur 6 000 médecins, vous n'avez même pas 10 médecins qui vont aller pour savoir. Il y a ce côté. Alors que moi, je trouve que sur ce côté, on doit être égoïste. On doit aller vers le savoir. C'est attribué ou à toi par le prophète qui dit qu'aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Malheureusement, quand nous sortons, et c'est justement cette crainte qui fait qu'on ne va pas en région. Parce que, attention, quand vous partez, on peut vous oublier aussi. Vous désapprenez parfois. Quand vous partez, il est urologue. Dites-le d'aller dans un CESCOM ou d'aller en périphérie au CCRF. Ce n'est pas qu'il ne peut pas aller. Il va aller, mais le plateau technique, ces outils que l'État doit mettre à sa disposition, ne sont pas là. Il va aller pour faire quoi? C'est ça la question grave. Sinon, les outils sont là. Mais il faut que nous sensibilisions ces médecins. Il faut que nous lui disons, cette fois-ci, vous avez une année. Chaque 3 mois, vous avez l'obligation maintenant de suivre une formation. Et vous serez évalué en fonction de ça. Et les outils sont là. Les occasions ne manquent pas. Il faut que nous partons vers ça. Il faut que les médecins arrivent. Il faut que nous faisons la concurrence positive dans ce domaine. Lui, il est urologue. Si quelqu'un est chirurgien, il faut que chaque année, il a prêté serment. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Il est urologue. Et ce que Al-Khari n'a pas dit, c'est qu'il a déjà dispensé un cours en ligne qui était suivi par plus de 55 personnes. Je suis jaloux de cela parce qu'il a battu nos records. Et ça, ce n'était pas normal. Mais pourtant, il a fait ce qu'il voulait, le suivi. Des médecins ont donné des cours. Mais il faut que cette fois-ci, nous arrêtons, que le médecin prenne sa formation à charge et que nous laissons un coach de ce côté social-là. La course vers l'argent, il faut que nous arrêtons un peu ça. C'est un sacerdoce. Nous avons l'obligation de restituer à cette population ce qu'elle nous a donné.
D'accord. Vous partagez.
Comme ça. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des journalistes mal formés?
Le débat ne se pose pas par rapport à cela. Je pourrais bien répondre à cette question, mais ce serait changer le contexte du débat. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de M. Dr. Seydou Tidiane Traoré?
Je suis totalement en phase avec Tidiane et ce qu'il dit par rapport à la formation. Je crois que nous avons, lui et moi, nous avons la charge d'assumer cette mission au niveau du nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et c'est de faire en sorte que la formation médicale puisse bien se faire et être enviée. Nous allons nous investir dans ce sens et suffisamment communiquer aussi sur la question. Je crois que c'est le début d'un commencement. Nous allons nous investir. Je crois que ce qu'il dit est absolument juste.
D'accord. Docteur Seydou Tidiane Traoré, par rapport à la qualité des services rendus dans les différents hôpitaux et centres de santé, quelle est la situation aujourd'hui?
La situation dans nos services laisse toujours à désirer. Vous voyez, c'est ce que je disais. Si vous n'avez pas une bonne base solide, si la formation n'y est pas, parfois vous avez même peur de vos collègues. Vous avez même peur parfois du malade qui est là. Et attention, ce malade actuellement est en train de commencer à demander des comptes. La médecine légale est ça. Ce n'est plus comme ce qui s'est passé avant. Et c'est là le rôle de l'ordre. Je suis médecin, ok. Mon service n'est pas ce qui est désiré. C'est l'ordre qui devait intervenir dans ce cadre-là. C'est l'ordre qui a l'obligation d'avoir un œil sur moi pour dire, ok, si nous sommes tous médecins, nous avons tous fait la même chose, nous sommes sortis. Lorsque un patient vient pour le palu, je ne dis pas de prescrire les mêmes molécules. Nous devons aboutir au même diagnostic, avec le même matériel à utiliser pour que ce patient retrouve sa santé. Mais quand vous venez maintenant, cette formation, cette prise en charge de la qualité qui est là, dépend des outils mis à la disposition du médecin. C'est pour cela, dans notre jargon, nous disons que le médecin a obligation de moyens, mais pas de résultats. Il faut qu'il utilise tous les moyens à sa disposition, tout ce qu'il peut pour que ce patient-là puisse recouvrir sa santé. S'il a fait tout cela, même si la mort arrive, il y a l'esprit. Nous, ça nous fait mal quand les patients meurent. Ne croyez pas que nous sommes contents. Non, non, non. On ne le manifeste pas. Mais parfois, on est abattu. Parfois, le matin, quand vous venez, quand vous apprenez qu'un patient est décédé, c'est toute la journée qui est perdue. Hein. Dans cette prise en charge, repose encore ce problème-là où certains, Dieu merci, ont des moyens. Mais c'est à la sueur de leur front. Il faut que nous payions des livres. Si nous ne pouvons pas, il y a des espaces qui sont là. Internet est là pour nous aider. L'ordre doit veiller à cela. Et comme il a dit, en tant que chargé de formation, c'est à nous de mettre ces outils-là à la disposition de nos collègues. Et nous l'avons déjà commencé. C'est ce que j'ai dit. Nous l'avons déjà commencé. Dans cette prise en charge, nous allons la suivre encore pour que, enfin, à la fin du mandat, que la population, que M. Mohamed Touré puisse dire, ouf, ces gens-là, maintenant, je reconnais le médecin. Ça, nous voulons aboutir.
Docteur Mariam Tcheba Traoré Keïta, certains dénoncent également l'accueil dans les centres de santé qui pose problème selon eux.
Bon, moi, je pense que ces deux questions-là sont un paquet. Parce que quand vous parlez de qualité des services dans les services de santé, que la qualité pose un problème, la qualité commence depuis l'accueil. Depuis l'accueil du patient, jusqu'à la prise en charge. Jusqu'au moment où on termine avec le patient, qu'on le libère. Tout ça, ça rentre dans la qualité de prise en charge du patient.
Qu'est-ce qui pousse certains de ces médecins ou infirmiers à ne pas accueillir bien un patient qui se sent déjà malade, qui peut être choqué, pas parce qu'il est mal éduqué ou qu'il a un problème, mais juste parce qu'il se sent mal?
Oui.
Et à cause de cela, il devrait être pris en charge, mais ce n'est pas fait dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux.
Bon, dire que les patients ne sont pas pris en charge dans certains hôpitaux.
Ils sont mal pris en charge, l'accueil.
Ok. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, cela dépend de tout un chacun. Alors, moi, je n'ai pas le même comportement devant un patient qui est encadré, et tout comme Seyro. Nous avons tous la même formation initiale. Mais ailleurs, on a aussi le côté social. Les gens n'ont pas le même social. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même famille. Donc, ça dépend de ce que l'intéressé met, son comportement, son habitude. Tout ça, ça reflète sur la qualité de la prise en charge. C'est pourquoi il est important, même depuis la première année de médecine, on commence les stages dans les hôpitaux. Et depuis cette phase-là, on doit commencer à encadrer les étudiants. On doit commencer à les encadrer sur le comportement. Comment se tenir devant un malade? Comment se comporter devant un patient? Bon, si cela manque vraiment le patient. Parce que quelqu'un qui a mal, il peut venir en toi souvent très aigri. Donc, il veut tout de suite que tu arrêtes tout et que tu t'occupes de lui. Donc, si cela manque, il devient souvent agressif. Donc maintenant, toi, médical, c'est à toi maintenant de savoir que ça, c'est un comportement vraiment qu'il faut apaiser et puis essayer de soulager le mal de la personne.
D'accord. Docteur Lalkadri, est-ce que cet encadrement par rapport à l'accueil, à la prise en charge des médecins, des patients plutôt, n'est pas un peu oublié au niveau de la formation dans les écoles?
Bon, je crois que ça, c'est un problème multidimensionnel. Ce qui concerne l'ordre, à mon avis, c'est ce que j'avais dit précédemment, il faut qu'on essaye de faire en sorte que les médecins puissent s'associer pour faire de grandes structures. La plupart des grandes structures aujourd'hui, à Bamako, qui sont assez de bonne cotation, on va dire comme ça, en termes d'établissements sanitaires, sont dotés de services d'accueil et d'orientation. L'accueil, c'est de l'art. C'est vraiment très important comment accueillir quelqu'un. L'accueil d'un patient, c'est le premier aspect qui peut déjà sceller le contrat médecin-patient ou détériorer ce contrat-là. Donc, cet accueil se passe avec des structures. Hein. C'est un service carrément d'accueil et d'orientation qui s'occupe de ce patient et de le mettre dans un cadre avec une bonne climatisation. Il fait chaud maintenant. Une bonne climatisation, une fontaine d'eau, un petit café à côté, une télévision, des journaux. Ça permet de créer un cadre idéal pour le patient. Le patient aussi doit savoir qu'il est patient par définition. Donc avoir de la patience. Et très souvent, ça manque à nos compatriotes, il faut le dire comme ça.
Faut des fois comprendre également qu'ils sont mal, c'est pas comme un être.
Mais justement, c'est ça le problème, ils ont mal comme tant d'autres. Vous voyez, en hôpital, moi je peux me taper en consultation, par exemple hier moi j'étais avec 40 patients. Vous voyez, l'autre vient, il va dire que lui j'ai plus mal que l'autre. La douleur c'est quelque chose qui n'est pas... On ne peut pas savoir.
C'est une pression. Les gens n'ont pas les mêmes façons de gérer la pression.
Voilà. Donc l'autre, peut-être qu'il y a un gars qui est à côté qui souffre plus que tout le monde, mais il sait se comporter, il sait respecter l'ordre d'arrivée. Il y a aussi cet aspect. Donc, moi, je veux dire tout simplement que les gens soient patients par définition. C'est celui qui a de la patience. Donc, savoir attendre, mais on doit créer un cadre qui permette d'attendre. Ça aussi, c'est un devoir qui s'impose à nous. Nous devons créer le cadre qui permet à la personne de pouvoir attendre, de pouvoir être dans les meilleures conditions de l'attente. Et ça, ça passe par plusieurs moyens, malheureusement, qui ne dépendent pas seulement que du médecin dans la plupart des cas, parce que surtout dans les structures publiques, vraiment, c'est assez regrettable. Donc, c'est pourquoi nous encourageons véritablement les initiatives privées. À l'ordre, je crois que cette mission essentielle que nous pouvons régler à cette question d'accueil, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir les papiers très rapidement et que les gens s'associent pour faire des grandes structures.
On va revenir là-dessus tout de suite au niveau des solutions. Docteur Seydou Tidiane Traoré, vous aujourd'hui, alors la question qui se pose, c'est à quoi servent, quand on rentre dans un centre de santé ou dans des hôpitaux, on voit quelque part où c'est écrit accueil et orientation.
Oui.
Accueil et orientation, ou même quand on voit des patients qui sont assis dans des chaises n'importe comment, où l'endroit est sale, qui doivent venir dire aux patients « calmez-vous, le médecin va venir tout de suite ». Mais tout cela manque. Alors, à quoi servent ces services d'accueil et d'orientation dans certains centres de santé?
Ok. Avant de dire cela, vous savez, il y a une citation que je préfère beaucoup. C'est ça va exprimer la colère et la douleur du patient. Et j'ai l'habitude de dire à mes collègues, ce n'est pas parce qu'il n'écrit pas qu'il n'a pas mal. La douleur peut tuer un patient. Chaque fois que je m'amuse à faire cette citation, ce n'est pas parce que quelqu'un est calme. Nous avons un rôle de sensibilisateur aussi. Nous devons aller vers ces gens-là qui viennent avec leur douleur. S'ils ont quitté chez eux, c'est parce qu'ils ont mal. Et parfois, c'est ce qu'ils vous disent. C'est « je viens à l'hôpital parce que j'en ai besoin, sinon n'allez pas me voir ici ». Nous devons encore sensibiliser nos partenaires. Ce problème d'accueil, il y a 7 à 8 ans, à Bamako, nous avons fait un congrès rien que sur l'accueil, pour permettre à ceux qui sont concernés de voir, de faire le bon accueil. Quand un patient arrive, un malade arrive, c'est parce qu'il a mal. Il ne vient pas parce qu'il est content. Il a un problème. Et c'est à vous, par la parole, par l'accueil, à soulager déjà son mal. Donc quand vous venez, il y a certains termes même qu'à l'hôpital, moi j'ai demandé aux patients, à ceux qui font l'accueil, d'utiliser. Quand c'est une maman, quand c'est une jeune fille, dire seulement le terme « neba ». Quand vous dites ça, maman, le truc comme ça, ça calme automatiquement la personne qui vient, par exemple, en colère, à depuis longtemps, « neba, hôtel, ininika, banashi, atike, et à la canature, katake, nyongonai », directement la personne, c'est calme. Ah, ok, d'accord. C'est calmé. Donc, ces services d'accueil servent justement à ça. Nous autres, nous devons laisser nos problèmes à l'assureur pour venir. Le patient qui est là, c'est un humain. Nous devons prendre sa charge sur nous. Donc, quand vous venez, ce service-là, il y a l'accueil et l'orientation. L'accueil, c'est l'enregistrement sur le bureau des entrées. Une fois que maintenant je suis sorti, il faut que quelqu'un soit là pour m'orienter, pour dire non, voici le bureau de tel médecin parce que vous avez cette fiche-là. Peut-être que je pars dans la salle A, c'est pas là-bas. On m'écrit, hey, ferme la porte. Je pars dans la salle B. Non, ces accueils-là devaient être. Mais c'est des insuffisances. C'est des insuffisances. Et nous autres, nous devons aller, pas forcément avec le personnel, mais avec les responsables de ces structures, pour leur dire, pour l'évaluation avec l'ANH. Il faut que nous les évaluons. Et dans l'évaluation, l'accueil fait partie. Vous avez une mauvaise qualité d'accueil, vous avez un zéro là-bas. Et quand nous allons publier cela, je pense que chacun va mettre pression sur ses travailleurs pour que maintenant le patient qui vient doit pas forcément comme un roi, non, mais être traité comme un humain. Prenons le patient comme un humain. Et là, le respect va venir pour tout le monde.
D'accord. Docteur Mariam, est-ce que ce ne sont pas les femmes, les enfants et les personnes handicapées qui souffrent plus de cette situation?
Je dirais non. Parce que actuellement, au Mali, les femmes, les enfants, On parle de gratuité ciblée. Cette gratuité ciblée-là vise cette couche-là. La femme enceinte, pratiquement depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'à 5 ans après l'accouchement, il y a des actions qui sont menées à l'endroit des femmes et des enfants. Pour la femme, la femme enceinte, le paludisme est pris en charge gratuitement. Et la prévention pour le palu est faite gratuitement. Les vaccinations sont faites gratuitement pour couvrir et la femme et l'enfant contre une maladie qu'on appelle les tétanos.
D'accord. C'est gratuit à Bamako, mais est-ce que c'est gratuit,
gratuit
au village aussi?
Sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, et puis, pour les enfants, il y a ça commence par la vaccination. Depuis la naissance, les six premières semaines, un mois, jusqu'à 3 fois, et puis 9 mois et 1 an. Donc, toutes ces vaccinations sont gratuites. Souvent, même si le service est à 5 km de là, qui est la norme, la femme n'arrive pas à amener l'enfant à la vaccination. Et les centres de santé délèguent des personnes pour aller chercher l'enfant, pour que l'enfant vienne faire sa vaccination. Donc, sur ce point, on ne peut pas dire qu'ils sont marginalisés par rapport à la prise en charge des besoins. Non. Et tous ces services sont gratuits, y compris, actuellement, je ne sais pas si vous avez fait une remarque, le paludisme ne fait pas des ravages comme dans le temps. Parce que chaque période où le palu fait son endémie, il y a des dispositions qui sont prises en charge, qui sont prises en compte à l'endroit de ces enfants. Et donc là, ils ne sont pas marginalisés. Par rapport aux handicapés, le service social est là. Ils mènent des actions à l'endroit de ces handicapés-là. Et ceux qui ne sont pas malades, même s'ils sont malades, il y a le service social. S'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge, le service social est là pour les aider à se soigner et souvent mener des actions pour créer des AGR pour ces handicapés. Donc on ne peut pas dire que le besoin de cette couche-là est mal pris en charge. Peut-être pas suffisamment, parce que l'État ne peut mettre que ce qu'il peut. Les partenaires viennent en aide.
D'accord. Docteur Al-Kadri Diarra, certains dénoncent aussi la non-disponibilité de certains médecins qui bougent entre les hôpitaux. Ils doivent travailler dans cet hôpital et rapidement, ils vont vers cette clinique. On a un marché là-bas, bon, je vais là-bas. Est-ce que c'est une situation qu'il ne faudrait pas revoir?
Oui, bon, je crois que c'est une réalité, un constat clair qui se dégage que les gens ne cessent de dénoncer. Je crois que c'est un aspect qui est assez réglementé par la loi hospitalière. Voilà, la loi hospitalière autorise effectivement les médecins, les praticiens dans les établissements publics à faire l'exercice privé de la médecine.
Est-ce que certains n'abusent pas trop de cette situation?
Bon, comme je l'ai dit, il faut voir certains aspects. C'est des questions de personnes, à mon avis, quoi. C'est la lecture que chacun fait de la chose. Mais je crois faire de ça un événement, ça va poser des problèmes lorsque le devoir qui s'impose à ce médecin dans le service public, lorsqu'il y a une défaillance à ce niveau.
D'accord. Alors, une minute pour chaque invité pour parler de ce que l'Ordre des médecins fait pour pouvoir pallier à cette situation.
Très bien. Alors, moi, je voulais vraiment vous remercier de l'initiative de cette invitation. Nous n'allons pas être la dernière. Je crois que nous allons encore revenir.
Oui.
Nous qui sommes chargés des questions de communication au niveau de l'ordre, nous allons beaucoup médiatiser. Nous allons beaucoup parler de l'ordre, des activités de l'ordre. Mais nous ne pouvons pas venir ici et partir sans faire ressortir certains aspects. C'est un nouveau bureau qui vient d'être mis en place par un événement extraordinaire, un événement inédit dans l'histoire de la médecine malienne, cette élection du 7 avril qui a vu une mobilisation extraordinaire de l'ensemble des médecins du Mali.
D'accord, 20 secondes.
Je vais terminer en disant, nous remercions les 57 délégués que nous avons soutenus sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau qui a été mis en place, c'est un bureau constitué d'hommes, de femmes, de jeunes, de garçons. d'universitaires, de privés, de parapublics. L'objectif est de faire.
À vous, docteur Mariam, pour compléter ce qu'il voulait dire. Allez-y, docteur Mariam, en 30 secondes.
Ok, 30 secondes. Ok, je remercie beaucoup l'initiative de nous faire venir pour parler un peu de la santé.
Est-ce que vous pensez que la situation va changer dans les prochains jours? Positivement.
Oui, je sais que la situation va changer.
D'accord.
Parce que la situation a commencé déjà à changer.
D'accord, merci. À vous, docteur Seydou Tidiane Traoré. 30 secondes.
Juste rassurer les collègues pour dire que lors de ce que nous venons, nous avons un programme. Ils pourront nous juger par ce programme qui est là, qui est disponible partout. C'est un long. Et les attentes seront comblées.
Merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat en partenariat avec le programme d'engagement civique. Le thème du débat était quel est le point de vue de l'Ordre des médecins par rapport à certains défis liés à la santé au Mali. Et nos invités, Dr Mariam Thieba Traoré Keïta, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins, Dr Alkadri Diarra, chargé de communication de l'Ordre des médecins, et Dr Seydou Tidiane Traoré, adjoint au chargé de communication de l'Ordre des médecins. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en nom d'assuré par Mamadou Ouattara, la régie vidéo Salim Djouara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Mouni.
Chenne Berry.